Direct en jeu, la radio insolite. Je ne fais que lire ce qui est marqué sur sa première page de son site internet. Faire de sa vie un rêve et de ses rêves une réalité. Imaginez le moment fort que je suis en train de passer, que je vais passer maintenant, puisqu'avec Emma, je vais faire de ma vie un rêve et de ce rêve une réalité. Bonjour Emma.
Bonjour Alain.
T'as vu, j'attaque fort, hein. C'est ce qui est marqué sur ton site internet.
Tout à fait, c'est ce qui est marqué sur mon site internet, cette phrase de Saint-Exupéry.
D'accord, alors je tiens à rappeler quand même qu'évidemment, nous fêtons comme il se doit l'exposition sur les 75 ans du Petit Prince qui a ouvert au mois d'octobre et qui a refermé, on attend avec impatience. Et puis on a fêté avec grand plaisir la sortie du timbre des 75 ans du Petit Prince, ce qui est quand même assez sympa. Dis-moi, d'habitude quand je commence... J'ai l'habitude de demander à mes interlocuteurs, qui êtes-vous, que faites-vous dans la vie? Mais alors là, je sais même pas si je te demande qu'est-ce que tu fais dans la vie. Je crois que c'est bon, je peux aller me faire une balade d'une demi-heure parce que je sais pas, avec toutes tes multifacettes, tu es en fait une personnalité définie par Audrey Chapeau, qui est une anthropologue qui a sorti le livre Éloge des métiers hybrides. Tu es un caméléon, tu es hybride. Bon, tant pis.
Absolument.
Je le fais quand même. Bonjour Emma, qui es-tu? Que fais-tu dans la vie? Oh là, je prends des risques.
Eh bien, je suis hybride. Je confirme ces propos. Donc, je ne peux pas vraiment me définir par une activité, mais plutôt par une personnalité qui a plusieurs activités. Donc, parmi elles, en fait, j'ai une activité... De psychanalyste, psychopraticienne. Donc, je reçois des gens en cabinet, des adultes, des couples que j'accompagne sur des problématiques personnelles ou professionnelles. Mais je suis également artiste, je suis comédienne et autrice et scénariste. Donc, j'écris des livres et j'écris aussi des scénars pour la télé, je développe des projets. Donc voilà, en gros.
C'est tout ?
Bon, c'est déjà pas mal, et puis surtout, je suis aussi cofondatrice d'une association qui s'appelle Lumière pour tous, avec un jeune homme qui s'appelle Fabien Mélado, et en fait, à travers ce projet et cette association, donc, quatrième casquette. Nous cherchons en fait à diffuser d'une certaine façon la lumière, mais sous toutes ses formes. Donc, on rencontre des astrophysiciens, mais aussi des architectes de lumière, tels qu'Alain Milot ou des photographes. Des cinéastes, des scientifiques, enfin toutes des philosophes, tels que Frédéric Lenoir, donc des personnalités très différentes qui interviennent autour de la question de la lumière sous toutes ses formes, et j'en ai même créé un spectacle.
D'accord. Alors, je vous rappelle que le siège de Direct en jeu, la radio insolite, qui fait partie du groupe Valeurs en jeu, est au cours Milzela, et je vais donc reprendre un mot de ce grand bonhomme qui dit « j'accuse ». Et ça, je suis obligé d'accuser à cause de toi. Est-ce que tu me le permets ?
Oui, on va voir.
J'accuse oui. Alain Guillouf, fondateur de la Fête des Lumières, président d'Architecture Lumière, qui a mis 80 pays en lumière, qui est le parrain d'honneur de la radio. Je l'accuse de nous avoir mis en relation, justement. Alors, il y a Alain Guillouf, et puis, comme tu dis, bon, c'est vrai que tu es multi-activité, mais si je vais te donner un prénom et un nom, tu vas me dire si tu connais ce monsieur, parce que moi, il n'est pas très connu. Il s'appelle Élie Chouraki.
Ah, non, il n'est pas connu du tout.
Raconte-moi ce qu'il fait. Je crois qu'il fait, il fait des courts-métrages, il fait quoi? Je ne me rappelle plus exactement.
Oui, c'est ça. C'est vraiment un personnage obscur, n'est-ce pas?
C'est le cadeau de dire.
Chouraki, qui est metteur en scène, réalisateur, créateur du magnifique spectacle, comédie musicale Les Dix Commandements, et avec qui j'ai eu l'honneur de travailler sur plusieurs projets. Que j'aime beaucoup, beaucoup.
Bon, alors, quel est... J'allais poser une question qui était un peu déroutante. Quel est ton cœur de métier, en fait? Est-ce que c'est plus le côté psychothérapie, c'est plus le côté spectacle, c'est plus le côté actrice et auteur? Est-ce que c'est une multitude d'activités ou vraiment il y a ton cœur de métier principal?
Non, en fait, je dirais que mon cœur de métier, c'est rencontrer et émouvoir.
Rencontrer, c'est
Donc,
pas un métier.
non, je sais bien,
Rencontrer,
mais
c'est un
en fait,
métier.
ce sont des verbes.
Je
Ce sont
tiens
des
à rappeler pour ceux qui n'ont pas entendu le
verbes,
début que j'ai dit qu'il y a des hybrides. Le métier, c'est
mais.
rencontrer. Donc tu présentes un nouveau métier qui s'appelle rencontrer.
Donc,
D'accord.
en fait, je dirais ça. Je dirais qu'en fait, ce qui m'anime profondément, c'est la
Oui.
question de la rencontre et de l'émotion. Et donc, pour moi, elle va prendre différentes formes. À la fois le cabinet de thérapie, à la fois mes activités théâtrales et audiovisuelles. Et j'ai pas, je dirais que mon emploi du temps, si on peut dire les choses comme ça, vraiment, il est moitié-moitié, ou un tiers, un tiers, un tiers. Je dirais que j'ai un tiers de temps consacré au cabinet, un tiers de temps consacré à mes activités de comédienne, de spectacle et l'association Lumière pour tous, et un tiers de mon temps consacré à tous mes projets d'écriture, et j'en ai quelques-uns. Donc voilà, mais je dis ça comme si c'était comme si je pouvais le catégoriser. En réalité, c'est pas vraiment le cas, puisque il y a des semaines où je vais être énormément au cabinet, des semaines où je vais pas y être du tout, des semaines où je vais être en répétition ou en écriture, en atelier d'écriture, et puis ça tourne en fait. Donc voilà, mais ça reste quand même globalement assez équilibré. Donc j'ai pas un cœur de métier plus qu'un autre. Et puis surtout, ces différentes activités, comment dire, elles font des passerelles les unes avec les autres. C'est-à-dire que je peux très bien utiliser l'écriture ou le théâtre dans le cadre du cabinet. J'ai d'ailleurs écrit un livre qui s'appelle Mon journal d'écriture thérapie, je deviens le héros de ma vie aux éditions Hugo New Life. Donc c'est un cahier d'écriture et je peux très bien utiliser ça dans le cadre du cabinet. De la même manière que là aujourd'hui, je suis en train de développer un livre et un podcast et j'écris pour une revue magazine qui s'appelle Saison, qui est sortie là cette semaine le 7 avril aux éditions Classique Garnier, où je mets les personnages sur le divan, les personnages de série sur le divan, et je fais une analyse avec ma co-autrice Emmanuelle Jay des personnages. Donc en fait, disons que ça se mélange en fait. C'est assez poreux. C'est pas comme si j'avais juste telle activité, puis telle autre, et tout ça. En fait, finalement, tout ça se combine plutôt bien, je trouve.
Ah, je suis un peu ennuyé parce que je vais te faire faire un petit exercice mental. Si je te dis un tiers plus un tiers plus un tiers, ça fait combien le résultat?
Ça fait 3 tiers, normalement.
Donc tu n'as rien d'autre dans ta vie.
Non, j'ai rien d'autre. Non, en plus, c'est pas vrai. Là, je parlais, disons, de mon temps professionnel. Non, non, j'ai une famille. Deux enfants absolument extraordinaires, etc., qui font aussi vraiment partie de mes activités, rencontrer et émouvoir.
D'accord. Alors, ce qui est intéressant en général dans ce type de rendez-vous que je donne, c'est de découvrir les coulisses. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Quelles sont les circonstances atténuantes qui te font arriver à cette multiplicité riche d'activités? C'est une rencontre, c'est déjà dans le ventre de ta maman, tu étais déjà avec ton stylo, ton papier, enfin tu étais déjà, tu pensais, qu'est-ce qui s'est passé?
Alors, je pense que déjà, je viens d'une famille un peu particulière quand même, parce que
Ah, donc tu as des circonstances atténuantes. Eh, vas-y, je change la famille. Et on y va, c'est
voilà.
parti.
Donc moi, je suis le fruit d'un papa qui est architecte, donc déjà un peu artiste et tout ça, et qui est vient du Maroc, et d'une maman viking, puisque ils sont tous
Et excuse-moi, Emma,
descendants
est-ce que
de
tu peux te
Normands,
rapprocher un
et
tout
elle est
petit?
astrologue.
Emma, est-ce que tu peux te rapprocher
Oui,
un tout petit peu parce qu'on a
bien
entendu ton
sûr.
papa, on n'a pas entendu ta maman. Tu disais?
D'accord. Donc je disais, mon papa est architecte et ma maman est astrologue. Alors tu vois un peu déjà les circonstances
Ah,
atténuantes.
j'imagine le mix.
Astrologue il y a 40 ans.
J'imagine.
Donc voilà. Après, je dirais que c'est aussi vraiment beaucoup le fruit de rencontres. En fait, déjà moi j'ai fait des études de philosophie. Donc
D'accord.
j'ai fait Hippocagne, et puis ensuite philo à la Sorbonne. Et je crois que la philosophie nous invite aussi beaucoup à la curiosité et à découvrir le monde sous ses différentes facettes, à la fois théorique, pratique, scientifique, artistique, etc. Donc, je pense que ça m'a donné une grande ouverture. Et parallèlement à ces études de philo, en fait, je faisais des études de théâtre au cours Périmonie, puis au studio théâtre d'Anières, qui est l'antichambre du conservatoire et qui est maintenant une école nationale. Et je faisais ça en parallèle de mes études de philo. Et puis, plus tard, j'ai eu la chance de rencontrer un monsieur qui s'appelle Alain, comme quoi les Alains dans ma vie, vous avez des places vraiment extrêmement particulières, qui s'appelle Alain Héril, qui était à la fois metteur en scène et psychanalyste. Aujourd'hui, il n'exerce plus en tant que metteur en scène, mais qui m'a aussi permis, en fait, d'aller vraiment découvrir la psychanalyse, la psychothérapie de manière un peu plus profonde. Et puis, à ce moment-là, j'étais vraiment plutôt que comédienne et auteur, et je faisais toujours de la philosophie. Et mon agent, Anne-Laure Estargiot, en fait, m'a fait rencontrer une psychologue clinicienne de la police, et on avait envie de créer une série autour de ce personnage extraordinaire qui accompagne les flics, ce sont des gens qui ne vont pas toujours très bien. Et à ce moment-là, en fait, j'ai demandé donc à Alain Héril, est-ce que tu accepterais que je vienne suivre des cours dans ta formation, dans ton école de psychopathologie, pour pouvoir bien construire mon personnage, en fait. L'idée, c'était vraiment ça. Au départ, c'était vraiment une démarche de scénariste, en fait, de prendre... Alors, j'étais moi-même suivie en analyse depuis très, très longtemps, depuis l'âge de 18 ans. Mais... Et il m'a dit, mais bien sûr. Et puis, en fait, j'ai commencé un cours, puis deux cours, puis en fait, je ne me suis pas arrêtée. Et c'est comme ça que c'est devenu à moi. Donc, le projet de série, c'est finalement jamais fait. Mais moi, j'en ai fait une grande partie de mon activité.
D'accord.
Donc, je peux te dire que c'est quand même lié à une rencontre. Et il se trouve que Alain, en fait, je l'avais rencontré après aller voir un spectacle. Et d'abord, on s'est rencontrés, moi, en tant que comédienne. C'est-à-dire qu'il m'a mis en scène dans un autre spectacle sur Rimbaud, à Charleville-Mézières et tout ça. Donc, c'est dans ce contexte-là qu'on s'est rencontrés et que la psychothérapie et la psychanalyse est venue après, en fait.
Tes aspirations, elles sont intéressantes parce que tu parles de petits jeunes, par exemple un dénommé Platon, qui, je pense, peut avoir un potentiel. Tu parles de Kant, tu parles de Nietzsche, de Freud, de Jung. Tu parles aussi d'un dénommé Prévert, Jacques, je crois, sauf erreur. De Cocteau, de Jean-Jacques Godard, de Georges Lucas, c'est quand même assez impressionnant. Ah oui, tu parles aussi des Frères Lumière, faut pas les oublier, parce que quand même.
Non, et puis alors eux... Ce qui est extraordinaire, c'est quand j'ai fait toutes mes recherches sur la lumière, et que je me suis intéressée à la lumière, mais vraiment sous toutes ses formes, je me suis posé la question de savoir, mais qu'est-ce qui fait que ces hommes, quand même, qui ont inventé le cinéma, portent ce nom qui est un nom prédestiné, en fait, j'ai envie de dire, que la photographie, c'est écrire avec de la lumière, et que le cinéma, exact, c'est de la photographie en mouvement. Et en fait, j'ai découvert qu'ils s'appellent Lumière parce que leur arrière-arrière-arrière-grand-père était allumeur de cierges dans les églises.
Exact.
Et bien. C'est pour ça qu'ils s'appellent Lumière. C'est extraordinaire, quand même. Je trouve ça tellement joli.
Tout à fait. Je vais lire ce qui est un peu, je ne veux pas dire le pitch de ton livre qui s'appelle donc Mon journal d'écriture thérapie, mais il y a quand même un truc qui est assez, je ne veux pas dire bouleversant. Tu ne parles pas de devenir, tu parles de redevenir. Et je vais lire. En vous ouvrant de nouveaux horizons, je vous invite à ne plus subir, à retrouver en vous vos richesses personnelles et à redevenir l'auteur, l'acteur et le réalisateur de votre vie. Non mais dis-moi, tu veux mettre la révolte ou quoi? C'est la révolution avec toi. Ça veut dire quoi, redevenir?
Eh bien, tu parlais de Platon tout à l'heure, mais en fait j'ai presque envie de dire qu'il y a quelque chose de cet ordre-là qui est de l'ordre de la réminiscence. C'est-à-dire que je pense qu'on a tout en nous, et c'est un peu aussi tout le travail que je fais dans le cabinet, c'est-à-dire que je sais pas grand-chose, moi. C'est plutôt les gens qui viennent à moi qui savent déjà, juste qu'ils ont un peu oublié. Donc, qui ils sont, ce qu'ils ont vraiment envie de partager au monde, ce qui fait leur spécificité, peut-être parfois hybride. Et tout le travail, en fait, ça va être de se reconnecter à cette part d'eux-mêmes. Et donc, c'est pour ça qu'il y a une espèce de re, hein, comme dans de la réflexion, c'est-à-dire qu'on va revenir à l'endroit de sa propre essence. Et ça, on va le faire dans le travail de dialogue. Alors, on peut le faire tout seul dans une espèce de travail d'auto-coaching, mais dans le cadre du cabinet, par exemple, on va le faire ensemble. Et l'idée, c'est vraiment de se ressaisir de qui on est un petit peu. Tu évoquais Saint-Exupéry et le Petit Prince. Je crois qu'il y a ça aussi dans le Petit Prince. C'est comment, en fait, nous, adultes, nous pouvons nous reconnecter à notre enfant intérieur, à qui nous sommes vraiment au fond. Et comment on va pouvoir aujourd'hui, en tant qu'adulte, structurer ça, structurer sa créativité et en faire quelque chose de magnifique qu'on peut partager aux autres.
C'est tout à fait vrai. Et d'ailleurs, je vous invite à écouter l'émission spéciale qui a été réalisée avec Olivier Daguet, qui est le petit-neveu de Saint-Exupéry, qui s'occupe de la fondation Saint-Exupéry, et qui explique bien ce type de choses. Qu'est-ce que ça représente la journée? Qu'est-ce que ça a représenté plutôt la journée internationale de la lumière pour toi?
Alors, c'est assez incroyable parce qu'en fait, il y a presque 3 ans maintenant.
Rapproche-toi, on t'entend de loin.
Pardon, c'est bizarre.
Ah, ça va mieux là. Ah oui, ça va beaucoup mieux. Vas-y.
En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a à peu près 3 ans, j'étais dans une démarche un peu philosophie citoyenne comme ça, et je suis allée. Enfin, je trouvais que la philosophie n'était pas suffisamment au cœur de la cité, et j'ai eu envie, en fait, de la remettre au cœur de la cité. Et donc, j'ai pris contact avec la mairie de mon arrondissement à Paris, la mairie du 9e, donc avec Madame Delphine Burki. Et je lui ai dit, mais ce serait vraiment super bien de créer une espèce de journée autour de la philosophie pour que les gens se parlent, en fait. Les gens ne se parlent pas assez. Et elle m'a dit, ah bah oui, pourquoi pas, ça peut être une idée. Il crée pas mal d'événements dans cette mairie-là. Mmh. Et puis, de fil en aiguille, on a discuté et on s'est dit, mais quelle thématique on pourrait mettre en place? Et comme moi, j'ai écrit, en fait, un mémoire sur la lumière, puisque j'écris, quand j'étais à la fac, un mémoire sur Marcel Fitin, qui est un philosophe du Quattrocento, vraiment pas connu, mais qui est le premier traducteur de Platon en latin, et que le mémoire, c'était sur la lumière comme lien de l'univers, je lui ai dit, mais on pourrait travailler autour de la lumière, ce serait hyper intéressant, parce que c'est très transversal, en fait. Et elle me dit, ah bah oui, pourquoi pas. Et puis, ce truc est resté comme ça. Ils sont revenus vers moi à la mairie quelques temps plus tard en me disant, je ne sais pas si vous savez, mais le 16 mai 2018 va être inaugurée la première journée internationale de la lumière, qui a été décidée en fait par l'UNESCO à l'initiative de Costel Chubran, mais aussi de Jean Audouze, suite à l'année internationale de la lumière qui avait eu lieu en 2015. Et là, j'ai trouvé que c'était formidable. Qu'il y ait une démarche de ce côté-là. Et au départ, c'était plutôt une vision de la lumière scientifique, à travers les lasers, à travers l'astrophysique, etc. Il se trouve que grâce à Delphine, j'ai pu être mise en relation avec Jean Audouze, qui est astrophysicien, ancien directeur du CNRS, un monsieur absolument passionnant. Et on a eu envie donc de créer un événement entre le 15 et le 17 mai. Enfin, eux surtout ont choisi de créer cet événement. Et à cette occasion-là, à la mairie du 9e, ils m'ont dit, bon, bah, nous, on va pas pouvoir non plus rivaliser avec l'UNESCO. Qu'est-ce qu'on peut faire? Et comme ils ont une sublime salle de spectacle, j'ai proposé de créer un seul en scène autour de la lumière. Et il a été donc créé dans ce contexte-là, dans le contexte de cette première journée internationale de la lumière. Et c'est à cette occasion que j'ai contacté différents acteurs qui, pour moi, sont des acteurs de la lumière, dont fait partie Alain Guillot, puisqu'il est créateur de la fête des Lumières à Lyon, mais cette fois-ci le 8 décembre, et aussi Frédéric Lenoir, parce que en fait, ce sont des gens qui, pour moi, parlent tous de la lumière, que ce soit Jean Audouze, Costel, Subran, Alain Guillaume et Frédéric Lenoir, mais de manière très différente, du point de vue de la philosophie, du point de vue de la lumière, de mettre en lumière les bâtiments, comme le fait Alain, de manière absolument sublime, ou aussi nous parler de la naissance de la lumière, comme Jean Audouze, Hubert Reeves, etc., qui nous parle de la naissance de la lumière il y a 13 milliards 800 millions d'années. Et donc voilà ce que ça représente pour moi, c'est une espèce de journée un peu un peu extraordinaire où on peut peut-être tous se rappeler, et ça, ça plairait beaucoup à Saint-Exupéry, je ne sais pas s'il le savait, mais que nous sommes tous faits de poussière d'étoiles, littéralement.
C'est joliment dit, très joliment dit. Quand tu étais petite, tu étais très... tu bougeais beaucoup ou tu étais plutôt timide et réservée?
Oh, j'étais plutôt timide et réservée, j'étais assez sage. En fait, moi, mes parents m'ont mis au théâtre parce que j'étais la timide de la classe, quoi. Genre la bonne élève, la bonne élève, mais qui parle pas, quoi. Donc, à un moment donné, j'avais toujours sur mes bulletins de classe excellente élève, mais ne participe pas suffisamment en cours ou ce genre de choses. Donc, en fait, ils se sont dit, bon, bah, va falloir faire quelque chose pour cette pauvre petite timide. Et donc, ils m'ont mis au théâtre et ça a été une révélation.
Est-ce que tu as une référence professionnelle quelque part au niveau du théâtre?
Sarah Bernard.
Carrément.
Mais alors, on s'est pas connus, elle et moi. Ou alors, peut-être, dans une vie antérieure, qui sait. Ça plairait beaucoup à ma maman. Oui, moi, je suis absolument fascinée par ce personnage. Je suis tellement fascinée par elle que j'ai lu une quinzaine de biographies et que je suis en train de développer un projet sur elle. Pas que sur elle, d'ailleurs, sur différentes femmes du 19e siècle, parce que ce sont des femmes extraordinaires, Sarah Bernard, Marguerite Durand, Lucie Dreyfus, dont on parle pas du tout suffisamment. Et Sarah est pour moi un personnage absolument extraordinaire parce que c'est une femme libre dans un monde d'hommes.
Exact.
C'est une femme catholique et juive. Alors, il se trouve que c'est mon cas aussi, donc je me reconnais chez ce personnage et qu'elle a œuvré véritablement pour la défense de Dreyfus, quitte à se fâcher avec son fils Maurice, puisque lui était anti-Dreyfusard, alors que c'était l'amour de sa vie, Maurice. Et elle a vraiment participé, en fait, à tout le travail de Zola, parce qu'ils étaient très proches avec Zola, enfin, ils se connaissaient très bien, parce qu'elle avait failli jouer la curée à la Comédie française. Et c'est un être absolument exceptionnel. Elle a créé une ambulance pendant la guerre de 70 à l'Odéon. Elle a soigné celui qui allait devenir le futur maréchal Foch. Enfin, c'est un personnage extraordinaire. Et donc, c'est une femme à la fois qui me fascine sur le plan artistique et théâtral. Alors, faut dire que j'ai un gros penchant pour la tragédie. Pour l'œuvre de Racine.
C'était ma question suivante. Zut. Vas-y.
Donc pour l'œuvre de Racine, enfin voilà, Phèdre, Andromaque, enfin ce sont des chefs-d'œuvre. Ma rencontre avec le théâtre s'est faite donc à mes 11 ans, quand j'ai un professeur de français qui nous a fait lire Andromaque.
Oui.
Je sais pas si c'était tout à fait ajusté par rapport à nos petites têtes de gamins de 6e, 5e, mais moi, la découverte de la langue et de pièces de théâtre en vers, ça a été pour moi une révélation. Je me suis dit, mais on peut écrire de manière aussi belle. Et ça a été comme une espèce de découverte transcendantale, j'ai presque envie de dire. Et je me suis prise de passion, en fait, pour la tragédie. Et puis, petit à petit, en fait, j'ai découvert le personnage de Sarah, mais Sarah, elle est bien plus intéressante que sa propre carrière. C'est-à-dire que c'est un personnage politique, en fait. Finalement, assez méconnue de ce point de vue-là. Enfin, ce qu'on sait d'elle, c'est que c'était le monstre sacré, et puis qu'elle a eu la jambe coupée, mais c'est à peu près tout. Or, c'est une femme d'une puissance extraordinaire, et puis qui a voyagé dans le monde entier, et qui était une espèce d'ambassadrice comme ça de la langue française. Enfin, elle est quand même allée jouer auprès des Indiens et elle est allée leur réciter Phèdre. Enfin, c'est comique, je veux dire. Il faut se remettre dans le contexte de la fin du 19e avec une bonne femme qui se trimballe avec ses lions et ses... j'ai été quand même bien cinglée, hein, avec ses lions et ses jaguars et ses tortues géantes. Et qui va dans l'Ouest américain et leur jouer quoi? Leur jouer Phèdre. Enfin, il y a presque un truc qui est ultra décalé, qui est extrêmement drôle chez ce personnage, alors que c'est une immense tragédienne. Donc voilà, si j'ai une référence, c'est celle-là.
D'accord.
C'est pas mal, première star internationale.
C'est bien, c'est pas mal. Quand on pense à toi, tu préfères qu'on pense à quelque chose qu'on peut utiliser tous les jours, c'est-à-dire un escalier, ou tu préfères qu'on pense à un fil d'or?
Ah, c'est marrant que tu me poses cette question. Bah,
Ah,
de toute
franchement,
façon, je
c'est.
n'ai en fait.
Alors, franchement, je la pose au hasard, hein. Alors là.
Parce que donc Scali, c'est pas mon vrai nom en fait, c'est le nom de mon arrière-grand-mère qui s'appelait Cohen Scali et c'est un nom que j'ai choisi parce que en marocain ça veut dire la Sicilienne ou les étoiles et en italien évidemment puisque c'est le nom aussi d'une famille italienne, donc ça fait tout de suite penser à la Scala et aux marches.
Exact.
Et en fait, j'ai choisi ce nom-là aussi parce que c'est comme si c'était des marches qui nous permettaient de monter jusqu'aux étoiles.
Oui, tout à fait, exactement.
Donc voilà. Donc c'est à la fois un escalier et un fil d'or. Pourquoi pas un fil qui nous permettrait de monter comme ça ou d'envoler jusqu'aux étoiles, ce serait super joli.
Dans ton parcours multifacette, préfères-tu le cinéma, la télé ou le théâtre?
Je crois que j'aime quand même beaucoup le cinéma, même si je l'ai moins pratiqué. Peut-être que ce que j'aime dans le cinéma, c'est cette idée d'écrire avec la lumière, hein, ce dont on parlait, c'est-à-dire le fait qu'on puisse construire des histoires et figer des choses. Après, en tant que comédienne, j'aime à la fois être sur un plateau et enfin sur un plateau de cinéma et sur un plateau de théâtre, c'est des expériences extrêmement différentes puisque au théâtre on partage en fait avec le public et donc il y a une espèce d'alchimie qui se passe et pour le coup la rencontre, elle n'est pas uniquement avec l'équipe mais elle est avec le public en direct. Donc je saurais pas dire si j'ai une préférence en fait, je suis pas sûre d'avoir une préférence, disons que ce sont des expériences différentes. C'est un peu comme si tu me disais tu préfères un super jambon beurre ou un 3 étoiles, ben j'aime les deux en
J'aime beaucoup
Donc
l'inspiration du jambon beurre et du 3 étoiles.
non, ça dépend des circonstances, je dirais.
Alors, justement, j'en arrivais à poser souvent la même question parce qu'il y a un mot qui est très fort. Je te donne juste ce mot et tu me dis ce que tu en penses. Émotion.
Ben, moi, c'est le mot qui me fait vibrer, hein. Le mot émotion, il dit bien ce qu'il dit, en fait, c'est-à-dire ce qui bouge à l'intérieur de soi et qui est fait pour sortir, pour s'exprimer, hein. Émotion. Donc voilà, je pense que c'est l'essence de la vie. Et j'allais dire de l'être humain, peut-être même pas que de l'être humain, parce qu'on voit bien que les animaux éprouvent énormément d'émotions, et je pense que même les plantes, il y a des études qui ont été faites sur le fait qu'on leur parle, qu'on leur mette de la musique ou qu'on soit amoureux des plantes et ça les fait vibrer autrement. Donc voilà, je pense qu'en fait c'est le principe même de la vie. La vie c'est du mouvement, et donc je crois que nos émotions, il faut les accueillir et accepter d'être traversé par elles, quelles qu'elles soient d'ailleurs, parce que dans les émotions de base, en fait, finalement, la seule dite émotion de base qui serait agréable, ce serait la joie, et on mettrait en général, on dit beaucoup qu'il faut gérer les émotions comme la colère, la tristesse ou la peur. Je suis pas du tout d'accord avec ça. Moi, je crois pas qu'il faille les gérer. Je crois qu'il faut accepter de se laisser traverser par elles parce qu'elles ont des messages à nous faire passer. La peur, elle est là pour nous aider à nous confronter ou à nous affranchir en fait du danger. En fait, elle nous prévient du danger et elle nous donne des indications sur quoi faire face à celui-ci. La colère, elle nous permet de nous exprimer de manière assertive et donc d'affirmer qui nous sommes. Donc, elle est extrêmement essentielle pour poser des limites, par exemple. Et puis aussi parce qu'elle est à l'origine de l'enthousiasme, hein. Souvent, la colère, c'est ce qui nous met en action, ce qui nous met en avant. Et la tristesse, parce qu'elle nous apprend à laisser partir. Et je crois qu'il est absolument fondamental, en fait, d'accepter de nous laisser traverser par la tristesse, parce que la tristesse, c'est aussi ce qui nous permet de prendre conscience de ce qui a été présent, parfois par son absence, notamment dans le cadre des deuils. Et je crois qu'il y a quelque chose d'absolument sublime dans la tristesse. Donc, et bien entendu la joie. Et je crois qu'il y a même une joie en fait profonde à laisser exprimer toutes ces émotions et à se laisser traverser par elles. Parce que si on ne le fait pas, en fait, elles deviennent des émotions élastiques et à ce moment-là, elles peuvent nous dépasser complètement, et éventuellement faire du mal dans le cadre de la violence ou ce genre de choses. Donc moi, je suis pour les émotions.
Comme on dit, les bonnes choses ont malheureusement toujours une fin. Je te remercie d'être l'une des toutes premières invitées de la nouvelle chronique qui s'appelle « Je suis hybride et j'en suis fier », une chronique inspirée par le livre d'Audrey Chapouf, « Éloge des métiers hybrides ». Comment est-ce qu'on fait pour te retrouver? Parce que là, je viens de t'écouter, je me dis « c'est pas possible, il faut que je… » Comment je fais pour te retrouver? Il y a un site internet, il y a une page Facebook?
Oui, tout à fait. Alors, on peut me retrouver sur mon site internet www.emascali.com, sur ma page Facebook à Emascali, sur Instagram, sur les réseaux sociaux. Il suffit de rentrer mon nom dans Google et il y a les différentes pages qui sortent. Et puis pour ceux que ça intéresse, avec ma fille de 8 ans, Ella, nous avons une chronique presque tous les dimanches, qui est une chronique qui s'appelle « Toute une philosophie sur Radio Orient » et on aborde en fait un sujet de philo, elle et moi, mais donc enfin, plus elle que moi d'ailleurs. Je lui pose 2-3 questions et du haut de ses 8 ans, elle donne son regard sur le monde et c'est en général extrêmement riche. Donc voilà, mais sinon sur les réseaux Facebook, Instagram… et sur mon site internet, bien sûr.
D'accord. Et puis, il faut peut-être préciser une dernière chose, c'est qu'on va se retrouver. On va se retrouver tout simplement avec Fabien Mélado, parce qu'il y a quand même un projet que vous avez en commun.
Tout à fait.
Mais ça, donc, il faudra rester sur Direct en Jeu, la radio insolite, pour suivre l'actualité. Je voulais te remercier, te souhaiter plein de bonnes choses. Et puis,
merci
dire.
Merci infiniment à toi.
À très, très vite.
À très, très vite, Alain. Au revoir.